la croche oreille.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission dédiée aux sonorités inclassables, aux musiques improbables. Parfois, c'est presque de la musique. Les sonorités que vous proposent les artistes sonores d'aujourd'hui. Je vous propose ce soir une rencontre fort sympathique et chaleureuse avec l'artiste Thibaut Quinchon, qui a réalisé cette année un projet de création sonore des plus singuliers. Un projet de réflexion autour de l'écoute et surtout un voyage poétique au cœur de la vallée Bras-du-Nord, ici dans la région de Portneuf. Un travail qu'il réalise au moment où l'hiver laisse place au printemps. La création de Thibaut Quinchon s'intitule Dissociation Vallée Bras-du-Nord. Elle est pensée, cette création sonore, pour une écoute attentive, en groupe idéalement, comme ça a été le cas il y a quelques semaines au Centre d'artistes au Borough à Montréal, ou comme ce soir sur les ondes radio. L'œuvre est composée de captures sonores en nature dans la vallée Bras-du-Nord, captures accompagnées des voix de Jean Désy et de Normand Génois, deux poètes ayant une expérience vraiment concrète de la vallée Bras-du-Nord, de ses bois, de sa rivière notamment, et dont ils ont imaginé les prolongements poétiques au travers leurs publications. La voix de Chantal Leblanc, une chercheuse en sciences de l'environnement, s'ajoute à la composition pour nous sensibiliser à l'écoute des paysages. Alors, je vous parle d'abord de Thibaut, que j'ai rencontré il y a quelques semaines à Montréal. Il est un concepteur sonore d'origine française installé au Québec depuis 2014. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment passionné de création sonore et très préoccupé par les questions touchant l'écologie, tout autant que l'écologie sonore, évidemment, tout autant que l'écologie territoriale, intéressé, lui, par les paysages, qu'ils soient urbains, ruraux, pastoraux. On peut dire que sa démarche est engagée sur le plan politique. Thibaut me raconte que son projet principal s'articule autour de l'écologie du patrimoine sonore naturel. Pour lui, la vie acoustique urbaine se caractérise par l'omniprésence de sonorités, d'ambiances qui détériorent de son point de vue notre rapport à l'environnement sonore. Il est un peu inspiré des propos de Maurice Schaffer, le théoricien de l'écologie sonore. Thibaut nous suggère de déambuler dans des environnements isolés où les éléments naturels prennent le dessus et d'écouter. Sortons de notre schizophonie, dit-il, pour tenter la réassociation de l'être et au monde qui nous fait vivre et respirer, vagabonder sur le plan sonore par l'écoute des paysages. C'est ça qui inspire la démarche sonore de Thibaut Quinchon. Thibaut est un artiste et un concepteur sonore qui cherche à répertorier les paysages acoustiques du Québec par l'entremise de créations originales. Et ce soir, on écoute cette dernière création, Dissociation Vallée-Bras-du-Nord. Ces travaux ont obtenu de belles marques de reconnaissance dans le domaine du son, au cinéma notamment, et il s'est retrouvé en nomination 2019 dans le cadre du prestigieux concours Phonurgia Nova avec son projet Dissociation. Alors, sans plus tarder, on écoute ensemble l'entretien que j'ai réalisé avec Thibaut il y a quelques semaines. Tout ça suivi de l'écoute intégrale du projet Dissociation Vallée-Bras-du-Nord. Thibaut Quinchon, bienvenue à l'émission.
Ben, merci à vous.
Thibaut,
t'as présenté un projet, t'as mené un projet cette année qui s'intitule Dissociation Vallée Bras du Nord. Ça a été présenté au concours Phonurgia. Ça a été retenu parmi les projets en compétition. Et ce soir, on se propose d'écouter l'intégrale de ton projet. Et pour mettre un peu nos auditeurs dans le bain, je dirais, j'aimerais ça t'entendre parler de la genèse du projet. Comment ça apparaît, ce projet sonore dans ta démarche?
C'est quand même une drôle d'histoire. Ça vient de beaucoup de choses. J'ai toujours aimé faire la prise de son un peu extérieure. Puis dans mon métier de montage sonore, un peu en cinéma, puis tout ça, j'avais souvent besoin de faire des enregistrements. L'année dernière, il y a un an, deux ans, j'ai commencé à faire beaucoup de plein air, quand même un peu à sortir. Puis j'ai toujours aimé ce rapport-là à la nature. Puis l'autre affaire aussi, ça a été que moi, j'ai été 4 ans à travailler dans un studio. Et puis j'avais un besoin de sortir et de m'émanciper un petit peu. Et donc on dirait que j'avais besoin d'avoir un projet que je développe moi-même. Et j'étais rendu là un peu dans ma vie. C'est un peu ça, ouais.
Ouais, de sortir du studio donnait sinon l'impression, à tout le moins, un effet d'agir en toute liberté.
Exactement, c'était ça. Ouais.
Écoute, le projet s'appelle Dissociation Vallée Bras du Nord. Bon, Vallée Bras du Nord pour ce territoire-là de nature dans la région de Portneuf. Mm-hmm. Dissociation, ça, j'aimerais beaucoup que tu me parles du choix de ce titre, qui est tout de même un peu mystérieux.
Oui, alors l'idée était, je ne sais pas si c'est tout à fait cohérent au final, mais moi là-bas ça me parlait beaucoup, parce que j'ai toujours imaginé ce projet-là comme un voyage, de faire voyager l'auditeur. Puis peut-être que c'est une démarche très urbaine, je ne sais pas, alors que j'essaye justement de parler de nature, mais pour moi c'était de se dissocier du monde dans lequel on vit, entre guillemets, de faire voyager dans des paysages sonores et dans des territoires. Puis des fois, quand j'écoute des trames sonores ou même de la musique ambiante, ce que j'aime beaucoup, il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression, de méditatif qui me fait sortir de mon corps un petit peu. Et donc, c'est un peu tout ça. C'est dissociation, c'est se dissocier de ce monde qu'on pourrait appeler peut-être pollué sonorement et amener à un voyage, donc se dissocier de son corps par l'écoute.
Dis-moi, dans la trame sonore de cette fiction, parce qu'au fond, on a effectivement des captations faites en nature, mais tu as aussi fait appel à des voix. Je vais dire ça comme ça, parce que comme on est dans le domaine de l'audio, de la projection pour l'oreille, là, il y a des voix qui sont celles de la poésie, sont celles de l'art, sont celles de la science. C'est quoi la motivation derrière ça?
La motivation, comme tout, il y a plusieurs, je pense, motivations, mais c'était, ben moi je trouve ça important de parler à du monde et d'expliquer les choses, de les faire comprendre. Et en ce sens, je pense que la voix a cette possibilité d'interpeller les gens, puis des gens qui seraient pas comme des amateurs de son, puis tout ça. Je sais que je faisais de la musique électronique quand j'étais plus jeune, puis je faisais écouter à des amis qui me disaient tout le temps comme « Hey, où est-ce qu'il est le chant? Où est-ce qu'elle est la voix ?» Donc, je pense que les gens s'attendent un petit peu à ça. Puis, le choix de la voix, c'est principalement ça. La poésie, c'est un peu comme une erreur de parcours, mais une bonne erreur au final, là, que ça a donné quelque chose d'intéressant, je pense. Voilà.
Thibaut, j'aimerais ça que tu me parles de ces voix, de ces artistes, de ces poètes, scientifiques qui font partie du projet.
Oui. Alors, on a en fait deux poètes qui ont coécrit un recueil de poésie sur la rivière du lieu où je suis allé, donc la rivière Bras du Nord, qui sont Normand Génois et Jean Désy, qui sont en fait des messieurs très sensibles, très plein air, très poétiques, c'est sûr. Mais pour les avoir rencontrés, disons, ils ont quand même un souci d'environnement, disons. Quoi dire de plus d'eux, je ne sais pas. Moi, je suis arrivé là-bas, puis finalement, ils m'ont dit comme « Oh, écologie sonore, on n'a jamais entendu parler de ça, et tout ça. » Mais on dirait qu'ils avaient envie ou ça les interpellait beaucoup. Et donc, et je me suis rendu compte en plus que finalement, ils avaient des choses à dire, puisque même Jean Désy parle de Muzak. Muzak est quelque chose qu'il faut quand même un peu connaître, j'ai l'impression. Là. Donc, ils avaient quand même cette sensibilité-là, mais n'avaient jamais pris le temps peut-être d'en parler. Puis, on a Chantal Leblanc qui a été mon premier point d'accroche de la région où j'avais contacté, parce que je cherchais cette approche. Oui, donc c'est vrai, la question, c'est ça, je cherchais une approche scientifique parce que quand on parle d'écologie sonore, enfin d'écologie en général, je pense que c'est attaché à la science puis à une connaissance qui est importante. Si aujourd'hui on parle d'écologie, c'est parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent fort pour nous faire conscientiser. Donc pour moi, c'était d'avoir plus de rapport, je ne sais pas, avec le sujet.
Tout à fait. Écoute, Thibault, on va écouter ce beau projet intitulé « Dissociation, Vallée-Bras du Nord ». Et on revient ensemble ensuite pour un peu faire la suite de cette présentation.
Nous pénétrons au cœur d'un royaume dont la reine se nomme Bras du Nord. Cette majesté de roche, de sable et de reflets d'or. Cette couleuvre qui serpente entre les mousses au pied des pentes et des cimes de bouleaux jaunes. Cette manifestation de la liberté et du désordre naturel. Ici, le rêve n'est pas une photographie ni du cinéma. Nous tenons à l'intérieur du cadre et nous en sortons quand cela nous le dit. J'ai étudié à Québec et quand je suis revenu ici, à 24 ans, j'étais autant un homme de la ville qu'un homme de la campagne. Mais là, j'ai redécouvert ma campagne. Et j'ai redécouvert ma campagne surtout en canot. Et ça m'a comme remis en... fait tomber en amour à nouveau avec ma région. Moi, j'avais été... j'ai un père qui était un homme de bois, donc j'allais avec lui assez souvent dans le bois quand j'étais enfant. Et puis, tout d'un coup, je me suis aperçu que j'aurais redécouvert ça. Et maintenant, j'écris et je remets presque toujours mon père. Et mon père est toujours dans mes recueils. En fait, bon, j'aime ça dans Vallée-Bras du Nord parce qu'on marche dans le fond de la forêt, puis on est entouré par le vent et... les feuilles qui bruissent et l'eau. Et tout ça ensemble, là, c'est vraiment très beau, avec quelques oiseaux qui chantent, là, c'est vraiment très beau. En fait, c'est l'équilibre du monde. C'est la beauté et l'équilibre du monde. Oui, moi, il y a un son que j'aime toujours particulièrement, c'est le son du vent dans les forêts mixtes. C'est un vent siffleur en hiver, alors qu'en été, c'est plus un vent qui est harmonieux, vaporeux, mais vraiment, mais en hiver, ça siffle, et puis c'est cinglant aussi, ça nous arrive dans le visage, c'est cinglant, mais moi, c'est... Je suis allé cette semaine, je me faisais vanter. Aujourd'hui, ils ne vantent pas, mais je me faisais vanter, puis j'aime ça. Je trouve que ça aussi, le vent, c'est une chose que les gens détestent, puis c'est incompréhensible, puis c'est une force magnifique.
Comme je te dis, ça fait 50 ans et plus que je viens dans la région. Mais là, ça fait 25 ans exactement que je suis dans cette cabane-ci. Quand je suis arrivé ici, on était juste trois cabanes. C'est que j'étais en plein bois. Mais une des qualités de ce lieu-ci, c'est la coupure avec la musaque puis l'espèce de cacophonie qui règne de plus en plus en ville. C'est que si on ferme la radio, là, parce qu'on met pas de, comme je l'ai fermé, là, il y a un silence qui est très, très solennel et même qui peut être troublant pour certains individus. Dans notre pays, les grands silences sont des silences d'hiver. Quand ils ne ventent pas, c'est que à moins 42, à moins 40 ou à moins 35, au mois de janvier, février, la nuit, le silence est comme majestueux, comme jamais on peut percevoir un silence. Parce qu'il y a toutes sortes de silences. Il y a des silences moins majestueux que d'autres. Le silence de l'aube n'est pas le même que le silence du crépuscule. Mais c'est certain qu'un des aspects majeurs qui fait, entre autres, qu'il y ait tant de monde maintenant qui viennent dans la vallée de la Brosse-du-Nord, c'est sûrement, consciemment ou inconsciemment, cet attrait pour des zones silencieuses.
Les arbres entre eux. Musique primitive, empruntée à quelques vagues océanes. Bras déchus de rivières, l'île aux corbeaux, une embarcation, le ciel, la terre. Nous dedans, encerclés par les songes. Cette totale absence de repères. Maintient le chapiteau de l'espace. Nous taire. Laisser les pensées chuchoter à l'intérieur de chaque geste.
Le silence, c'est très sûrement un élément contributoire à apaiser ou à mettre l'esprit dans un état de plus grande harmonie avec le monde ou avec soi-même. Où là, on est obligé de calmer toutes sortes de bruits confus qui viennent de partout. puis de concentrer sa pensée, si on veut la concentrer. C'est intéressant, il y a une obligation physique à contrôler les sons. C'est que dans le fond, c'est très sûrement une des raisons qui font, qui mettent autant d'attrait pour autant de monde, 75 000 personnes, elle est passée dans la vallée de la Brosse-du-Nord. Pourquoi c'est si populaire? C'est pour des raisons de tous ordres. Il y a la collectivité, le fait de la coopérative, le fait qu'il y a des yourtes, il y a toutes sortes d'activités, mais il y a quand même encore maintenant une réelle protection du silence. Il y a des silences qui sont émouvants. On peut être stupéfait par certains silences. Puis je pense que dans notre civilisation actuelle, une bonne proportion de gens ne peuvent pas tolérer le silence parce que là, ils sont confrontés à eux-mêmes. Plus que les animaux sauvages, je pense que c'est le silence total qui apeure la majorité des gens en forêt. Dans ma vie, les moments d'éblouissement d'ordre mystique, j'ose le dire, que j'ai vécu, c'est en général dans des immenses espaces. Comme un des premiers moments où j'ai eu l'impression que mon âme volait, c'est quand j'ai atterri dans la toundra la première fois le 2 janvier 1990 à cause de l'espace. Puis un des aspects majeurs de la toundra, un lieu sans arbres, c'est un désert froid, c'est le silence qui règne là-dedans. Mais évidemment, si c'est un blé bizarre, il n'y a pas de silence. Mais règle générale, dans la toundra, il y a un silence majeur. Puis en plus, bien, il y a une immensité. Puis en plus, c'est un espace dénudé. C'est que il y a beaucoup de facteurs qui font que le sentiment d'exister est plus puissant, pour moi en tout cas, que quand je me trouve dans un centre-ville.
Dans l'immensité. Ces corps de vie dans la neige qui semblent mortes. Mais la neige n'est pas morte. Ni des grandes épinettes. Rien ne meurt l'hiver. Rien ne dort, tout vit. Mais d'une vie qui est tout autre que la vie des habitudes. Changer, c'est qu'on entend plus de bruit indu. Donc on entend, c'est ça, beaucoup plus de bruit de machines qu'avant, ou de mécanismes, de trucs qui tournent. Et alors que moi, quand j'étais jeune, les quatre roues, ça n'existait pas. Il y avait peu de motoneige, même s'il y en avait, il y avait peu de motoneige. Alors quand, comme tu dis, quand on entend, quand il en passait un, c'était un seul bruit, il passait puis il était disparu. Mais maintenant, il y a beaucoup de moteurs, toutes sortes de moteurs, que ce soit les souffleries pour les feuilles, les déboussoleuses, les débroussailleuses. Mais ça a sa place, mais en même temps, je sais pas, en même temps, ça, c'est sûr que le bruit des machines, c'est un voile. Ça ça brise l'harmonie naturelle. Moi, je vais en ville, là, mais mon problème en ville, c'est ce mur de bruit, puis le mur de briques. Il me semble que le rêve, il voit loin. Puis, donc c'est ça, en campagne, on a facilement du rêve, parce qu'on est capable de voir loin, s'arrêter, puis laisser des choses nous habiter. Alors qu'en ville, tu es toujours en train de courir après quelque chose, tu ne laisses pas les choses t'habiter.
Pendant des années, avec la mère de mes enfants, on passait des mois, surtout au printemps, à faire de l'identification d'oiseaux, de l'ornithologie, puis à les identifier visuellement, mais sonorement aussi. Ça, c'est vraiment passionnant. C'est que si à ce moment-ci, on sait que il y a moins d'oiseaux au Québec pour des raisons d'ordre écologique, mais ça me blesse.
Une brise portera mille mésanges. Leur pipiment fera comme des gouttes d'eau. Il se posera au sommet d'un pin gris. On dira de lui qu'il sent bon. Le printemps.
Ça, on dirait plus clair un peu. Le pic flamboyant, ça va être plus tout en longueur comme ça. en ce moment, c'est beaucoup au niveau des oiseaux là, qu'on remarque là, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais on voit qu'il y a une petite activité qui commence. Là, j'entends une citelle, puis les mésanges et tout ça, ils ont été assez tranquilles. Là, janvier, février, surtout dans les foies, là, on les entend pas trop. Et puis là, on commence, ils se pointent le bout du nez plus souvent. C'est les premiers. Là, les oiseaux qui hivernent ici au Québec, qui sont discrets pendant l'hiver, mais dès que ça commence à s'adoucir, là, eux s'activent parce qu'ils rentrent dans leur période d'accouplement. Déjà, ils sont déjà... les chums, les blondes sont choisis, puis ils se préparent à faire le nid, là, doucement, en mars, avril. À ce temps-ci, j'ai parlé des mésanges, citelles. On entend les corneilles. Ce matin, je voyais beaucoup de corneilles en couple. En paire, puis même j'en ai vu avec des matériaux dans le bec, là. Donc ils commencent vraiment à faire les nids, mais aussi les jets bleus, puis toutes les piques aussi qui sont des qui hivernent ici au Québec, mais tu sais, on les voit pas beaucoup l'hiver, puis là, quand arrive les temps doux, tout d'un coup, oups, plusieurs petits piques là, qui apparaissent dans nos forêts, puis ça c'est vraiment de façon progressive, on le voit d'une semaine à l'autre, là, ça augmente tranquillement.
Ce qui est majeur, à mon point de vue, c'est pour le premier hiver de ma vie, j'ai à peu près pas rencontré d'oiseaux. J'ai entendu à peu près rien, sauf parfois des corbeaux. Puis ça me blesse, ça me préoccupe. Ou bien c'est circonstanciel, puis qu'ils vont revenir. Puis c'est vrai que ça a été un hiver extrêmement perturbé. Rigoureux relativement, mais avec le climat jamais stable. Puis je pense que c'est... Moi, j'ai une préoccupation aussi pour les animaux sauvages. C'est un hiver extrêmement rude pour les animaux tout court. Comme à ce moment-ci, les cervidés, là, comme les chevreuils et les orignaux, souffrent parce qu'il y a énormément de neige, puis il y a des couches de glace qui se brisent les tendons. Puis ils peuvent pas faire de longues, longues balades. Les chevreuils sur la croûte maintenant, oui, ils peuvent recommencer à voyager, mais pas les orignaux. C'est que ces hivers-ci sont extrêmement pénibles pour le gros gibier. Il meurt, la mortalité est importante rendue au mois de mars. Puis après ça, ben là, ceux qui ont survécu, ben, là, ils sont contents que le mois de mai arrive.
Non, mais moi, je pense qu'actuellement, ce qui caractérise le plus, c'est la lumière. C'est le soleil du printemps qui monte un peu puis qui passe encore parce que les arbres n'ont pas de feuilles. Non, mais je pense que c'est vraiment la lumière actuellement qui caractérise. Puis c'est très beau, en fait, parce que la lumière va partout, les feuilles n'arrêtent pas, puis la lumière va même dans le sous-bois, et puis on dirait que la lumière court dans le sous-bois. C'est le seul temps de l'année où c'est comme ça. Pendant l'hiver, il y a beaucoup moins de lumière. Alors, même les journées lumineuses, le soleil reste assez bas. Quelques heures pendant la journée, mais là dès le matin, là, le soleil arrive horizontal, donc il éclaire vraiment, il éclaire partout, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. En plus, c'est une lumière dorée. Là. Ça fait comme un fil doré dans l'air, mais un voile doré dans l'air. C'est un peu l'éternité, la rivière Bras du Nord. C'est un peu le sens de l'éternité. C'est quelque chose qui est là. Tu as l'impression de faire partie d'un ensemble extraordinaire. je sais pas, quand on est dans la rivière particulièrement, puis on rame, par exemple, puis là, on voit le fond, parce que c'est pas une rivière profonde. L'eau est très claire, le soleil rentre là-dedans. J'ai l'impression de l'éternité. Nous autres, on passe, mais ça, c'est là. Puis ça reste beau, puis ça reste baigné par le ciel. Et t'as toujours le reflet du ciel quand tu descends.
Il y a quelque chose de pathologique sociologiquement, pas juste au Québec, là, dans beaucoup de parties du monde, avec ce besoin de créer du bruit, un bruit de fond, comme si ça fait partie de l'agitation collective qui règne. Puis il y a une agitation visuelle avec les écrans, avec le web, mais l'agitation sonore est probablement plus perverse encore. Mais je suis fragile à certains moments de ma vie à ces espèces de musique ambiante, mais je trouve que c'est un symptôme important de désordre social ou d'une maladie collective qui a l'air bénigne, là, mais qui ne l'est pas.
Une rivière chute dans l'écume du vide, se relève, court lentement sur les cailloux, les genoux écorchés, remplit son ventre de sable, avale un ciel d'oiseaux, épinette tête en bas, défait son lit en avril, sort de sa chambre. Elle lave les pierres, imprime les marques du temps, horloge solaire. Elle redescend le vif du nord, son mordant, le rêve de ce que nous fûmes. Moi, je pense que le bruit de l'eau, le bruit qui guérit tout. Alors, c'est sûr que la rivière Bas-du-Nord, pour moi, c'est le bruit de l'eau d'abord.
Thibault, on vient d'entendre ce projet intitulé Dissociation, Vallée Bras-du-Nord. Comment est la réception d'un tel projet? Tu as mené une séance d'écoute chez Oboro il y a quelques semaines. Quelles sont les réflexions que ça inspire, ce projet-là, chez les auditeurs?
Étrangement, j'ai pas eu tant l'occasion d'en parler et difficile à dire parce que le projet est pas encore lancé, puis j'ai pas encore eu tant de retours que ça, et ouais, c'est ça. J'ai des bons retours, les gens trouvent ça vraiment bien, puis j'ai l'impression que peut-être que ça leur mène une réflexion intérieure plus qu'autre chose, ou alors tout est dit dans le projet, mais je pense pas, mais globalement les gens disent qu'ils ont apprécié.
Thibault, à travers ce projet, bon, s'il y a une démarche de fiction documentaire, c'est aussi la démarche une démarche de field recording, on va sur le terrain, on fait des captations, t'as exprimé cette idée qu'il y a une forme de liberté, et sur le plan de l'art sonore plus largement et musical, ce serait quoi les sources d'inspiration? Est-ce qu'elles sont essentiellement tournées vers une préoccupation soit climatique ou soit artistique? Qu'est-ce qui t'alimente là, dans la préparation d'un projet comme celui-là, par exemple?
Pour préparer, j'ai fait quand même, il y a eu une partie où j'ai lu beaucoup d'articles et de recherches. Si j'ai le temps, j'essaie de lire des rapports un peu scientifiques ou des choses sur certains thèmes ou certains sujets. J'aime beaucoup parler des biologistes, des bioacousticiens, si on veut. Il y en a pas beaucoup au Québec, de ce que je comprends, là. C'est des gens qui travaillent dans la science et dans la science des sons, des animaux. J'avais écouté un podcast sur Arte qui était les animaux musiciens, je pense. Puis c'était des petits 5 minutes en parlant des vocalisations des animaux. Ensuite, comme je disais, j'en ai parlé un peu plus tôt, la musique ambiante, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'écoute beaucoup de styles de musique, mais on dirait qu'il y a une puissance, il y a quelque chose de méditatif là-dedans qui est intéressant pour moi. J'écoute pas tant de field recording que ça, en fait, bizarrement ou pas, je sais pas. Mais j'aime bien les mélanges de styles. Donc il y a des artistes qui font des mélanges field recording, musique ambiante, justement ça me stimule pas mal. Quoi d'autre? Je pense que c'est quand même pas mal ça.
Dis-moi, on est aujourd'hui dans un univers de studio de son. C'est une activité là, par laquelle tu gagnes ta vie en tant que telle. Quand on écoute Dissociation, Vallée-Bras-du-Nord, il y a à quelque part dans ce projet-là une préoccupation critique par rapport aux sonorités qui nous environnent dans le quotidien.
J'ai pas envie de dire des bêtises parce que j'ai toujours peur un peu de tomber dans le bon, bah moi je vois tout en noir puis tout ça, donc mais si je me fie à des choses ou ce qu'a écrit Raymond Murray Schaeffer, puis de ce que moi j'écoute de mon environnement, je suis pas forcément très optimiste sur le rapport que les gens ont au son de leur état de conscience un petit peu. Parce que, ouais, je sais pas. Mais bon, c'est une déformation professionnelle. Moi, je baigne dedans tout le temps, donc je peux pas dire aux gens comme non, c'est pas bien ce que vous faites avec le son. C'est délicat. Mais oui, c'est comme si je pense qu'il reste qu'aujourd'hui, il y a toujours une prédominance probablement de l'image, puis que notre environnement sonore, on le façonne pas vraiment. On design sonore dans des films, on sait ce que c'est sur des ordinateurs, mais on pourrait façonner notre environnement sonore. Et puis pas forcément avoir de la musique qui joue en permanence dans un café, par exemple, ou partout. Là, c'est ce que parle de Jean Désy quand il parle de Musac. C'est un peu ça. Je vois pas beaucoup d'amélioration. Et en ville, on a ce, je peux me faire peut-être challenger là-dedans, mais en ville, on a un rumble constant. Donc c'est comme des basses fréquences avec tout le trafic qui est là. Puis au son, on a ce qui existe l'effet de masque. Et mine de rien, c'est sûr et certain que ça masque une partie de notre champ auditif. Mm-hmm. Et on vit avec.
Oui, tout à fait. Thibault, pour un peu conclure notre entretien, j'aimerais ça que tu me parles de tes projets qui sont en cours sur le plan artistique. Là.
En fait, Dissociation, c'est pas mal mon projet. Puis c'est comme une série d'œuvres sonores. Donc finalement, c'est que le début potentiellement. Là, ce qui s'en vient, c'est que finalement, avec des musiciens, puis avec Normand Génois, le 21 novembre au bar Le Ritz, on fait comme une version live en fait du documentaire sonore avec des envois de bouts de documents, des passages complètement méditatifs, tout ça. Ensuite, j'essaye de travailler sur repartir en captation dans la Matawini au début de l'année prochaine, parce que je suis mandaté pour faire une installation sonore au Festival de Poésie de Joliette. Normalement, ça devrait se faire. Je travaille avec une société de production de balado qui démarre un petit peu pour une autre activité rémunératrice. Mais dans mes projets, c'est Dissociation que je veux continuer, parce que pour moi, c'est comme un phénomène qu'il faut perdurer pour que ça rentre dans l'état d'esprit. Puis juste faire un documentaire sonore, je pense que ce serait donner un coup d'épée dans l'eau. Genre, je pense qu'il faut continuer ce travail-là.
Oui, exactement. Creuser la réflexion à cet égard. Thibault Quinchon, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup à vous.
Alors voilà, ainsi s'achève cette rencontre avec Thibault Quinchon à propos de son projet intitulé Dissociation, Vallée-Bras du Nord. Grand merci à Thibault d'ailleurs pour nous avoir permis d'écouter son projet qui est magnifique. On sent l'esprit qui plane au-dessus de ce territoire Vallée-Bras du Nord. Alors vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est la Croche-Oreille qui est avec vous ce soir. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver la liste des pièces entendues ce soir, la pièce entendue ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y retrouverez sur le site le descriptif de l'émission ainsi que toutes les émissions en balado pour écoute immédiate ou en différé. Cela dit, restez avec nous, c'est la web musique qui s'amène avec Simon Roy. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL 89.1. Pour conclure la soirée, on écoute ensemble un extrait du bel album intitulé « Les arts des zébrures » du créateur Bernard Falaise, une pièce intitulée « Porcelaine 360 ». Alors voilà, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.
Thank you. Cette émission est disponible en balado-diffusion.